Bonsoir, enseignement primaire et secondaire. Dans un rapport publié la semaine dernière par le gouvernement, la RDC a enregistré des progrès énormes dans le volet éducation des objectifs du millénaire pour le développement. Ce rapport note par exemple que 3 enfants sur 4 sont inscrits à l'école. Cette amélioration est attribuée entre autres à la gratuité progressive de l'enseignement primaire. Cependant, il reste encore des défis à relever, notamment la qualité de l'enseignement, ajoute ce même rapport. Comment analyser ce rapport? C'est le thème de Dialogue entre Congolais de ce mercredi 27 août 2014. Et pour en parler, je reçois dans cette émission pour les débats Valère Moussia, il est coordonnateur de la cellule d'appui technique au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Monsieur Valère Moussia, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur Mathélie Makambo, docteur d'État en sciences politiques et professeur d'université. Professeur Mathélie, bonsoir.
Bonsoir, madame la journaliste.
Et Jean-Pierre Kimbuya, qui va nous rejoindre dans un tout petit moment. Il est secrétaire général du syndicat des enseignants du Congo, SIECO en sigle. Il est aussi chercheur en didactique des sciences. Vous êtes nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Mathieu Bawere depuis Goma, au Nord Kivu. Il est vrai qu'il y a une amélioration dans les secteurs de l'éducation, sauf que j'aimerais avoir une précision sur la déclaration du gouvernement faisant état de la gratuité progressive de l'enseignement, car à mon humble avis, nulle part en RDC, cette gratuité n'est encore effective. Pour Luc Likoui, 3 enfants sur 4 sont inscrits, c'est bien, mais la question qu'il faut se poser, dans quel genre d'école? Merci de nous suivre sur toute l'étendue de la RDC, sous la fréquence FM, et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Radio. Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le dernier rapport du gouvernement sur le système éducatif national indique que la couverture scolaire en RDC connaît une croissance positive à tous les niveaux de l'enseignement. Près de 3 enfants sur 4 sont inscrits à l'école. Il reste cependant encore des défis à relever, notamment le maintien des élèves à l'école et la qualité de l'enseignement. Ce rapport note aussi que 5% d'enfants congolais n'auront jamais l'accès à l'école pour, entre autres raisons, la volatilité de la sécurité dans leur milieu. Jocelyne Moussa nous en dit plus.
Le rapport d'état du système éducatif national indique que la couverture scolaire en RDC connaît une croissance positive à tous les niveaux de l'enseignement. Plus de 3 sur 4 enfants sont inscrits à l'école. Le taux brut de scolarisation est passé de 90% en 2006 à 130% actuellement. Toutefois, 5% d'enfants congolais n'auront jamais l'accès à l'école selon ce rapport. C'est là à cause de la volatilité de la sécurité dans leur milieu, la distance qui sépare leur lieu d'habitation des établissements scolaires et le travail auquel ils s'adonnent à cause de la pauvreté. En outre, la moitié d'élèves admis à l'école ne terminent pas le cycle primaire. Les défis majeurs que doit encore relever la RDC, c'est de les maintenir à l'école et améliorer la qualité de l'enseignement. Pour cela, le gouvernement doit agir sur l'enseignant, a dit le coordonnateur de la cellule d'appui technique à l'EPSP. Beaucoup d'efforts budgétaires ont déjà été fournis par le gouvernement, même s'il reste encore du chemin à parcourir. Valère Moussia.
La part réservée à l'EPSP dans le budget national a été presque doublée en 4 ans. En principe, les frais de motivation sont supprimés. Mais il y avait 266 000 enseignants qui attendent d'être payés au niveau du primaire. En partie, ces frais de motivation, évidemment, permettent à l'école de supporter ses enseignants.
La qualité de l'enseignement ne dépend pas que de la motivation de l'enseignant, mais surtout de sa formation pour rendre plus attrayantes les matières dispensées de manière à captiver plus d'élèves.
Merci Jocelyne Moussaou, Valère Moussia. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de la cellule d'appui technique au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. La RDC a enregistré des progrès énormes dans les volets éducation des objectifs du millénaire pour le développement. Qu'est-ce qui vous fait dire cela?
Oui, effectivement, on a enregistré d'énormes progrès en ce qui concerne l'accès. Les indicateurs le démontrent bien. Par exemple, en ce qui concerne le taux brut d'admission en première année, le taux est passé de 107% en 2010 à 113%. Donc cela montre qu'on a gagné énormément de points, à peu près 26 points. Donc ce qui est un progrès énorme. En ce qui concerne, par exemple, le taux brut de scolarisation primaire, Il faut noter que le taux est passé de 91% à 101%. Donc ce sont des progrès indéniables, ce qui montre qu'il y a effectivement des efforts qui se font dans ce secteur, et voilà.
Alors ce rapport sur le système éducatif national indique que la couverture scolaire en RDC connaît une croissance positive. Vous venez de donner les indicateurs à tous les niveaux de l'enseignement. Est-ce que c'est-à-dire primaire, secondaire, universitaire, ou ça concerne juste les primaires?
Pour l'instant, les réformes prioritaires, les programmes prioritaires sont concentrés sur les primaires, parce que comme vous le savez, l'enseignement primaire, d'après notre constitution et d'après les chartes que notre pays a signées au niveau international, l'enseignement primaire est une obligation. Donc c'est une obligation constitutionnelle. L'enseignement primaire est obligatoire et gratuit. Donc de ce point de vue, le gouvernement est obligé, est dans l'obligation d'envoyer tous les enfants à l'école sans exception.
Voilà. L'enseignement primaire est obligatoire et gratuit de la première en sixième?
De la première année en sixième.
Est-ce que c'est effectif?
Il faut faire la part des choses entre le principe et la mise en œuvre du principe. C'est-à-dire que l'application de la mesure de la gratuité a fait l'objet de beaucoup de réflexions, beaucoup d'hypothèses et beaucoup d'enquêtes également. Toutes ces enquêtes ont démontré et toutes ces études ont montré que pour y aller, pour appliquer la gratuité de l'enseignement primaire, il faut que le gouvernement y aille de manière progressive, à la fois dans les temps et dans l'espace. C'est ainsi qu'en 2010, l'application de la gratuité a démarré avec les classes de première année, de deuxième année et de troisième année.
Pour toutes les provinces?
Pour toutes les provinces, à l'exception des villes de Kinshasa et de Lubumbashi. Au moment où nous parlons, il y a une étude qui est en cours et qui doit permettre, en fait, une étude de faisabilité de la mesure de gratuité en ce qui concerne les villes de Lubumbashi et de Kinshasa. En même temps, il s'agit d'une étude d'évaluation qui évalue donc l'application de la mesure de gratuité sur toute l'étendue de la République. Donc le rapport devrait permettre au gouvernement d'envisager des mesures concrètes pour pouvoir poursuivre l'application de la mesure de la gratuité. Dans tous les cas, ce processus est un processus irréversible. On ne doit pas revenir parce que on ne peut pas accepter que des enfants achètent l'éducation. Donc il est irréversible. Il y a des défis, bien sûr, énormes à relever. On va y revenir. Mais il faut poursuivre l'application de la gratuité sur toute l'étendue de la République.
Il faut poursuivre l'application de la gratuité. Malheureusement, il y a des auditeurs qui nous écrivent, qui estiment que cette mesure n'est pas appliquée dans plusieurs écoles publiques. C'est le cas des Mourani qui nous écrit de Kindu Manima. Il dit ceci: le rapport d'état du système éducatif national reflète bien sûr la réalité actuelle de ce secteur dans notre pays. Mais alors, il y a lieu de noter que les enseignants sont jusque-là très mal payés. La gratuité de l'enseignement primaire n'est pas du tout effective. Cette situation n'est secrète pour personne.
Maintenant, il faut donc, ça c'est vrai, mais c'est un peu trop dire. D'abord, il faut noter une chose. Il faut qu'on se comprenne sur le contenu de la gratuité. La gratuité concerne des frais que nous appelons dans notre jargon des frais scolaires directs, ceux qui sont payés par les parents directement à l'école. Ces frais, c'est le Minerval, c'est le TENAFEP, c'est les imprimés, l'assurance, mais également effectivement les frais de motivation. Ça, c'est une chose. Donc si on se comprend déjà sur le contenu de la gratuité, c'est vrai que ça ne concerne pas tout. Quand je dis tout, ça ne concerne pas les frais indirects tels que l'achat de l'uniforme, l'achat des fournitures scolaires, les frais de transport, les frais d'alimentation qu'on doit assurer pour son enfant. Ça, c'est une chose. Donc, et puis deuxième chose, c'est la perception même de la gratuité. Si vous arrivez dans un village ou dans un lieu et que vous demandez à un parent pour savoir si la gratuité était d'application, mais d'emblée, parce que le parent ne sait pas faire la différence ou n'a pas suivi ou il n'y a pas assez de sensibilisation pour qu'il fasse la différence entre les frais scolaires directs et les frais scolaires directe. À partir du moment où ce parent continue à payer l'uniforme pour son enfant, ou à payer les frais ou les fournitures scolaires pour son enfant, quand vous lui posez la question, comme ça, mais lui va dire, écoutez, l'école n'est pas gratuite. Donc, il y a donc une question de perception que nous devons bien
comprendre. Mais lorsqu'il paie des frais pour l'inscription.
Bon, ça, c'est une chose. Troisième chose, la réussite de l'application de la mesure de la gratuité doit mobiliser les efforts de tout le monde et la vigilance de tout le monde. Nous savons bien que dans tous les pays, lorsqu'on met en place une mesure, il y a toujours des résistances, il y a toujours des gens qui veulent la contourner. Et là, il faut la mobilisation à la fois des parents, de la société civile, des autorités pour sanctionner ceux qui ne semblent pas appliquer la mesure, etc. Ça, c'est une deuxième chose qui est quand même vraie, et là, je partage le point de vue de l'auditeur. Il y a ce que nous appelons les frais de motivation qui sont payés par les parents aux écoles. Pourquoi ces frais de motivation? D'abord, ces frais de motivation, ce n'est pas le niveau central qui les fixe. Ça, c'est au cas par cas et c'est le niveau provincial qui fixe les frais de motivation. À quoi servent ces frais de motivation? Ils servent principalement à prendre en charge les enseignants qui, jusque-là, ne sont pas payés par l'État. Ils sont en attente de paiement.
Merci.
C'est ce qu'on appelle les enseignants non mécanisés. Comment en est-on arrivé là?
Je vais redonner la parole,
okay,
Monsieur Valère Moussia, justement pour parler de ces frais de motivation, si les parents vont continuer à payer ou s'ils seront supprimés. Le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jean-Pierre Kimbuya, qui est secrétaire général du syndicat des enseignants du Congo, si est concible. Il est aussi chercheur en didactique des sciences. Monsieur Kimbuya, vous avez lu le dernier rapport du gouvernement qui a enregistré, qui selon dans ce rapport, le gouvernement dit que la RDC a enregistré des progrès énormes dans le volet éducation, des objectifs du millénaire pour le développement. Ce rapport note par exemple que 3 enfants sur 4 sont inscrits à l'école. Et cette amélioration est attribuée entre autres à la gratuité progressive de l'enseignement primaire. Quelle est votre analyse?
Oui, je pense que c'est un fait indéniable, mais il faut nuancer, n'est-ce pas, ces rapports du gouvernement. C'est vrai que la gratuité, c'est jusqu'en 4e année primaire. Au départ, il y a beaucoup d'enfants qui viennent, il y a un engouement, il est vrai. Mais nous nous rendons compte qu'à partir de la 5e, déjà, il y a un problème. Et même pour ces enfants qui viennent à partir de la première année primaire, on se rend compte que dans beaucoup de provinces où la gratuité, n'est-ce pas, avait commencé, il y a eu des problèmes. Donc, c'est vrai par rapport à la séance scolaire, comme vient de dire le professeur, voilà. Et c'est une chose, et les uniformes, les parents doivent prendre en charge, mais les frais de motivation constituent un goulot d'étranglement, parce qu'à la fin de l'année scolaire, lorsqu'on vérifie, n'est-ce pas, les statistiques d'entrée et les statistiques des élèves qui passent les classes, on se rend compte qu'en tout cas, il y a toujours des perditions. C'est un constat qu'on a fait même cette année. Il y a des cas même à travers la ville de Kinshasa. Et je pense jusque-là, c'est
une question. Et qu'est-ce qui explique cela?
Non, c'est parce que les parents sont pauvres en majorité. Ils sont pauvres en majorité. Et il n'y a pas de sensibilisation. Il faut qu'on arrive à expliquer, n'est-ce pas, qu'est-ce qui est gratuit. Parce que l'école gratuite, en tout cas, c'est difficile même en Europe ou dans d'autres pays d'Afrique. Mais malheureusement, il n'y a pas une sensibilisation. C'est vrai que c'est la responsabilité du gouvernement, d'une part, une grande responsabilité. Mais au niveau décentralisé, je pense que les gestionnaires doivent expliquer cela aux parents et ne pas profiter, n'est-ce pas, des frais de motivation pour fabriquer d'autres frais qui asphyxient, qui appauvrissent davantage les parents, qui les amènent même jusqu'à vendre jusqu'au lit. Donc c'est pas normal. Donc je pense que le goulot d'étranglement, c'est encore ces frais payés par les parents pour faire face aux salaires, aux enseignants qui ne sont pas payés, mais même ceux qui sont payés par l'État, ils reçoivent aussi cette motivation. Il faut qu'on soit clair. Donc je pense aucun enseignant ne me contestera. Donc c'est vraiment un goulot d'étranglement. Ça commence bien au début de l'année, il y a beaucoup d'enfants, mais à la fin de l'année scolaire, on peut interroger les enseignants, ils vont vous dire qu'il y a des élèves qui ne passent même pas à retirer leur bulletin. C'est parce qu'ils se font fabriquer des pièces scolaires, c'est ça aussi, c'est la conséquence. Donc il faut qu'on explique que c'est la gratuité et qu'au finish, qu'on mette suffisamment de moyens pour que ça réussisse. Parce que les enseignants qui sont concernés ont un salaire payé par l'État, mais les droits acquis, nous, en tant que syndicalistes et socialistes, ils doivent être conservés. Quitte à ce que ça soit remplacé par les efforts du gouvernement.
Et ça veut dire qu'il n'y a pas encore gratuité au niveau de l'enseignement primaire.
La gratuité est là, mais elle n'est pas concrète parce que jusqu'à elle n'est pas encore comprise. Je peux citer les cas du territoire de Kassangoulou. Les enseignants ont marché avant la fin de l'année scolaire parce qu'il y a un député professeur qui avait dit plus question en tout cas de payer ces frais-là, j'assure au marché. Donc les enseignants eux-mêmes ont encore une grande responsabilité par rapport à cette motivation, parce qu'ils doivent considérer qu'ils n'ont pour employeur dans les publics que les gourmands congolais et non pas les parents, parce que leur carrière doit être gérée par l'État, leur retraite doit être gérée par l'État. Je pense qu'il y a une responsabilité collective pour que la gratuité fasse l'objet d'une sensibilisation, d'une vulgarisation, non pas seulement au niveau des chefs lieux, mais à travers toute la République, dans les territoires et dans les provinces.
Et ça, c'est le travail du gouvernement qui doit sensibiliser.
Non.
Les chefs des établissements aussi doivent sensibiliser par rapport à ça.
Oui, le gouvernement donne le ton. Mais quand on dit gouvernement, il y a un gouvernement central, il y a aussi des gouvernements provinciaux. Et la société civile doit aussi faire son travail, parce qu'en tant que groupe de pression, en tant qu'interface, qui a pour mission de dénoncer, mais de faire des plaidoyers, et pourquoi pas les lobbying aussi, la société civile doit faire aussi son travail, et chaque fois dire au gouvernement, halte, il y a clignotant rouge, il y a péril à la demain. Et là, ça peut hypothéquer, n'est-ce pas, qu'on atteigne, n'est-ce pas, ce qui est un des objectifs importants, n'est-ce pas, du millénaire aussi.
Alors, Jean-Pierre Kimbuya, aujourd'hui, 3 enfants sur 4 peuvent aller à l'école. C'est quelque chose à saluer.
C'est à saluer au départ, mais il faut que ça se maintienne. Il faut qu'on protège cet échantillon jusqu'à la fin de l'année scolaire. Lorsqu'il y a des évaluations, lorsque d'abord vont passer en classe, on se rend compte qu'effectivement, il y a une constance. Mais si il y a mortalité de l'échantillon au cours de l'année scolaire, c'est qu'il y a un problème. Donc il faut qu'on puisse, tous les acteurs puissent vraiment se mettre autour d'une table, réfléchir comment pallier à cela. Des enfants, et des enfants qui quittent l'école, si les parents ne peuvent pas continuer à payer les frais, ils constituent une pépinière, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, les enfants de la rue. Donc ce qui nourrit en quelque sorte la délinquance juvénile. Donc voilà, nous devons chaque fois intervenir. C'est notre rôle en tant qu'organisation syndicale d'être proactif par rapport à ce qui ne marche pas, tout en reconnaissant qu'il y a des efforts qui sont fournis par rapport aux attentes de la société. Il y a encore vraiment, en tout cas, beaucoup à faire.
Et donc, si je vous comprends bien, Jean-Pierre Kimbuya, ces enfants qui n'atteignent pas la 6e primaire ou qui arrêtent en cours, d'une année scolaire, c'est parce qu'ils n'ont pas de moyens pour payer les frais.
Non, pas nécessairement jusqu'au niveau de la 6e. Même en première année, c'est vrai, c'est des frais de motivation. On s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des hostilités entre enseignants et gouvernement. Et ces élèves tous n'arrivent pas à la fin de l'année scolaire, que ce soit en première, que ce soit en deuxième, que ce soit en troisième. Les enseignants sont disponibles à travers la République. Une enquête peut nous démontrer que ce que j'ai dit est vérifiable.
Alors, Jean-Pierre Kimbuya, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Mbandaka, dans la province de l'Équateur.
Je suis Grassi Mongomanzongo, étudiant à l'université de Mbandaka. Un tel rapport donne l'impression que dans notre pays, il y a le progrès sur le taux d'alphabétisation. C'est bien. Mais l'essentiel, c'est que l'État congolais doit avoir l'ambition de mettre les innovations pédagogiques pertinentes à la portée des enseignants, des apprenants et des parents. Que l'éducation se base sur une pédagogie active, une pédagogie d'intégration ou d'approche par compétence, pour qu'il n'ait pas seulement la quantité, mais aussi la qualité.
Merci. C'est pas seulement la quantité qui compte, mais il faudra aussi la qualité.
Oui, mais je sais que c'est parmi les grands piliers du programme intermédiaire d'éducation. Il y a l'accès que nous venons d'évoquer, mais il y a la qualité. C'est vrai, quand on parle de la qualité, il y a la formation initiale des enseignants, que ce soit au niveau du primaire, du secondaire, mais pourquoi aussi enfin, au niveau d'enseignement supérieur et universitaire. Et la qualité, il y a la formation initiale, mais il y a aussi la formation continue, c'est-à-dire en cours de carrière. C'est vrai que c'est en lien avec les conditions de vie, les conditions de travail des enseignants. Et si on s'en tient, n'est-ce pas, aux missions de l'enseignement primaire. Au terme d'enseignement primaire, je pense qu'en termes d'objectifs, l'enfant doit être en mesure de lire, d'écrire et de calculer. Est-ce qu'on atteint ces objectifs? Si on les atteint, on peut, en tout cas, c'est bomber le torse par rapport à la qualité.
Mais vous qui êtes enseignant, est-ce que vous atteignez ces objectifs?
Oui, mais c'est vraiment, il faut vraiment, en tant que chercheur, je ne peux pas d'emblée confirmer. Et c'est vrai que des efforts sont fournis, mais la pièce maîtresse qu'est l'enseignant doit prendre aussi conscience. En plus, n'est-ce pas, des revendications que nous faisons par rapport aux questions salariales, qui sont primordiales, qui sont fondamentales, parce qu'il faut un enseignant qui aime son métier, qui a la motivation pour l'enseignement, pour que vraiment qu'on arrive à la qualité. Mais l'État aussi, et en tout cas des surcroît, doit mettre suffisamment des moyens. Les moyens, ils sont là, mais par rapport aux attentes pour atteindre la qualité, je répète que des efforts restent à fournir. Tout n'est pas noir et tout n'est pas rose, sinon je vais être démagogue.
Alors, c'est dit même dans le rapport du gouvernement que des efforts restent à fournir concernant surtout sur la qualité de l'enseignement primaire, secondaire et universitaire. On vous redonne la parole tout à l'heure, professeur Mafeli Makambo. Vous êtes docteur d'État en sciences politiques et professeur d'université. Quelle est votre lecture de ce rapport du gouvernement?
Oui, le rapport du gouvernement est un rapport ambitieux quand même. Ça, il faut l'avouer. En revanche, ce qu'il faut noter est que il y a beaucoup d'éléments qui manquent. Comme je viens de dire, mes prédécesseurs, il y a un effort à fournir. Alors, il va falloir donc une planification rationnelle susceptible d'améliorer quand même la qualité de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Alors, moi, je vais encore plus loin. Dans tout cela, il faut une ferme volonté politique et suivi de moyens financiers, matériels didactiques, tout ça. Et surtout, là, il y a un autre volet que je dois ajouter. On doit tenir compte surtout de l'enseignant, le formateur. Vous voyez? Il nous faut des instituteurs pour une scolarisation quasi complète, une alphabétisation, une donc redénisation des enfants appelés donc à la l'émancipation pour l'avenir de notre pays. Alors, il y a, je dirais, franchement, il y a beaucoup de choses qui doivent être faites. Il y a eu un progrès, mais la gratuité, comme viennent de dire mes prédécesseurs, sous peine de me répéter, elle est un peu essoufflée. Parce que la loi qui était adoptée en 2011 par le Parlement avait permis donc au gouvernement d'instaurer, dès le début de l'année scolaire 2010-2011, la gratuité dans les trois premières années primaires. Et puis, par la même occasion, le gouvernement avait projeté l'application de ce texte aux classes des 4e, 5e et 6e. Mais simplement, au finish, on constate que c'est jusqu'en 4e année seulement que la gratuité est d'application. 5e, 6e, il y a une sorte de frein. Donc, il n'y a pas évolution. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Et je crois qu'il y a beaucoup à faire, mais il y a quand même un léger progrès. Hein? Il y a un progrès.
Alors, pour vous, ce léger progrès se situe à quel niveau?
Bon, madame, au niveau des textes, au plan purement juridique, vous savez que notre pays a connu au moins plus de 20 constitutions. Il y a eu des constitutions seulement qui ont parlé de la gratuité et de l'obligation de l'école primaire. Il y a eu la constitution de Lulouabourg qui, dans ses articles 33 jusqu'à l'article 38, qui parlait de l'école gratuite et obligatoire. Et il y a la récente constitution, c'est-à-dire la constitution du 18 février 2006, qui parle ouvertement de l'enseignement primaire gratuit et obligatoire pour les filles et les garçons. Voilà déjà un progrès. Au plan purement juridique, c'est un grand progrès. Vous voyez? Alors maintenant, ce qui reste, ce sont maintenant le moyen d'accompagnement et d'autres textes, d'autres mesures, beaucoup plus le moyen financier et la volonté politique pour pouvoir matérialiser tout cela.
Et le fait qu'aujourd'hui il y a trois enfants sur quatre qui peuvent aller à l'école, c'est aussi quelque chose à saluer de la part du gouvernement.
Oui, madame, c'est ce que je viens de dire. Hein. Il y a un progrès réalisé, mais qui n'est pas total, mais nous devons aller. Donc, c'est-à-dire que dans notre pays, un pays post-conflit et les zones de tension existent encore. Et aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus focalisés sur ce qui se passe à l'Est. Bon, le gouvernement est pris dans cet engrenage, le problème à l'Est, le problème dans la province orientale et tout ça. Et aujourd'hui, nous avons un autre phénomène qui vient de s'ajouter, la fièvre d'hémorragie d'Ebola dans l'Équateur. Oui, tout ça, le gouvernement doit faire face à tout cela, à tous ces conflits et à tous ces phénomènes sociaux qui naissent dans notre pays. Alors vous voyez qu'il y a tout un défi à relever, alors ça pose problème, mais alors, vous voyez, c'est tout cela, mais c'est qu'il faut reconnaître qu'il y a un léger progrès. Je crois que c'est tout un processus, je vais dire aussi, hein, ça il faut avoir présent à l'esprit, que c'est un processus, mais il y a urgence aussi. Pourquoi? Parce que l'enseignement, c'est le socle même, c'est l'avenir du pays. Donc les enfants bien scolarisés, les enfants bien élevés, bien éduqués, c'est la patrie qui est élevée, c'est la patrie qui est éduquée, c'est la patrie qui est élevée, quoi, vous voyez, je veux dire.
Alors, professeur Weston-Lee, on prend pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
C'est Maître Papi Kassema depuis Kinshasa. À mon avis, ce rapport est plus ambitieux que réaliste. Pour arriver à ces fins, l'effectivité des caractères gratuits et obligatoires de l'enseignement primaire doit être proportionnelle à l'amélioration des conditions de vie du personnel éducatif. Par ailleurs, un autre défi qu'il faut également relever dans ce secteur est de mettre fin au phénomène nouvelle unité qui aura pour conséquence logique la prise de conscience professionnelle par les enseignants. Enfin, il faut contrôler et concurrencer le secteur privé qui occupe une place considérable dans ce secteur. Tout ceci demande la volonté politique.
Volonté politique, cet auditeur aborde un peu dans le même sens que vous, professeur.
Oui. Oh oui, c'est ce qu'il faut. Il faut la volonté politique. Mais alors, madame la journaliste, j'aimerais aussi quand même relativiser ce que nous venons de dire de la gratuité. Il y a deux types d'écoles ou trois, je veux dire. Il y a l'école publique et les écoles privées. Alors, moi, je pose la question de savoir si cette gratuité concerne seulement les écoles publiques ou toutes les écoles de la République.
Alors, monsieur Moussia du ministère va répondre à cette question. Vous restez en ligne, professeur Mafeli Makambo. Monsieur Valère Mounia, oui. Cette gratuité concerne les écoles publiques ou toutes les écoles d'ailleurs d'ici?
La gratuité, l'enseignement concerne les écoles publiques. Et j'aimerais apporter également une autre correction, c'est qu'elle est appliquée à ce jour jusqu'à la classe de 5e année et non pas de 6e année. Ça, c'est une chose. Elle est appliquée jusqu'à la classe de 5e année primaire et pas de 4e année. Il faut bien vérifier. Alors, est-ce qu'il y a de la volonté politique ou pas? Je pense que la volonté politique y est. Lorsqu'on regarde la progression de la part du budget qui est réservé au secteur de l'éducation et notamment à l'EPSP, cette part est en constante progression. Par exemple, on est passé de 2010, dans les taux de croissance du budget de l'EPSP est passé en 2010 de 6,4 à 14% en 2013. Pendant ce temps, la croissance du budget de l'État n'a cru que de 5%. Donc, le budget qui, la part de l'éducation qui est, disons, du budget qui est réservé à l'EPSP a été doublé donc en moins de 3 ans. Ce qui est quand même une volonté politique manifeste. Cela montre toute la place prioritaire qu'on accorde donc à l'enseignement primaire et secondaire.
On va revenir sur la gratuité de l'enseignement. Monsieur Moussia, vous confirmez que la gratuité est bel et bien effective aujourd'hui en RDC.
La gratuité est effective en RDC, bien sûr, avec beaucoup de défis qui restent à relever. Je l'ai souligné, j'ai encore souligné que c'est un effort qui doit se poursuivre et qui doit mobiliser tout le monde, aussi bien les parents, aussi bien les communautés locales que les gouvernements provinciaux, etc.
Alors, une autre question, est-ce que pourquoi le gouvernement est-il incapable aujourd'hui de prendre en charge les professeurs ou les enseignants?
Non, ce n'est pas un point d'incapacité, c'est un problème, un défi qu'il faut relever progressivement. Le ministère de l'enseignement primaire et secondaire vient d'organiser, il y a juste du 20 au 22, ce que nous appelons la revue conjointe du plan intérimaire. Le plan intérimaire, c'est quoi? Le plan intérimaire, c'est que pourquoi mettre en place un plan? Pourquoi mettre en place une stratégie? C'est qu'on est on est en face de beaucoup de problèmes qu'il ne faut pas résoudre tous en même temps. Il faut faire des choix. Il faut faire des choix prioritaires et c'est ce que le gouvernement a fait. Donc il y a bien sûr donc beaucoup de défis qui restent. Il fallait bien faire un choix et on a fait ce choix-là. On a fait le choix de mettre en application la mesure de la gratuité. Comment fallait-il le faire? Il fallait faire également un choix. Il fallait le faire de manière progressive, aussi bien dans le temps que dans l'espace. Bon, maintenant, cet effort du gouvernement, cette volonté politique du gouvernement qui transparaît à travers la progression constante de la part du budget qui est réservé à l'éducation, où est-ce qu'il va cet effort? Mais il va justement d'abord à l'enseignant. Parce que la place de l'enseignant est centrale dans les dispositifs de réformes qui sont mises en place par le gouvernement. Alors, il y a tous ces stocks d'enseignants qui s'est accumulé depuis des années, parce que en fait, aujourd'hui, nous regardons ce que nous voyons à cet instant. Mais la situation dure depuis des années. On n'avait plus payé des anciens depuis des décennies. Et donc, c'est ce stock qui s'est accumulé pendant des années qu'on est en train de vider progressivement. On tombe malade très rapidement.
Vous parlez des efforts du gouvernement.
Oui, ça veut dire que tous ces efforts vont dans la prise en charge.
Mais qu'est-ce que ces efforts lorsque les parents continuent à prendre en charge les enseignants?
Les parents continuent à prendre en charge les enseignants. Pourquoi? Parce que tous les enseignants, dans beaucoup d'écoles, ne sont pas mécanisés, ne sont pas payés. Ils ne sont pas payés et dans ces conditions, effectivement, les parents...
Pourquoi ils ne sont pas payés? Parce qu'il n'y a pas assez d'argent.
Ils ne sont pas payés parce qu'il n'y a pas assez d'argent. Mais le gouvernement fait des efforts, on est en train de vider progressivement ce stock. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, il faut augmenter les salaires des anciens progrès. Lorsqu'on a commencé à appliquer la mesure de la gratuité en 2010, quelle a été la première mesure d'accompagnement qui avait été prise? C'était d'aligner les salaires des enseignants sur le barème de Kinshasa. Ce qui a fait que, dans la plupart des cas, dans le milieu rural, les enseignants ont vu leur salaire doubler, compensant même largement la motivation qui avait été perdue à ce moment-là.
Merci.
Et donc, c'est un effort progressif. Et c'est aussi un problème de... D'abord, aujourd'hui, on peut vous payer... On vous a toujours payé.
Merci, monsieur Valère.
$50, si, $100. Si demain, on commence à vous payer $500, ça fonctionne pendant quelques temps. Et puis après,
Merci, monsieur Valère,
tout à fait insuffisant.
Jean-Pierre Kimbuya, voilà. Il y a encore beaucoup de défis à relever par rapport à la qualité même de l'enseignement au Congo, en RDC.
Oui, il y a beaucoup de défis. Parce que je peux dire qu'au niveau du primaire, en tout cas, nous nous rendons compte que cela, c'est la dernière génération, n'est-ce pas, des enseignants bien formés qui sont retraitables, mais qui attendent leur retraite. Et parfois, ils meurent. Il n'y a pas encore des politiques cohérentes en matière de retraite. Parce que c'est la question, n'est-ce pas, cette question est en lien avec la sécurité sociale. Le ministère de la fonction publique, en tout cas, a annoncé la création d'une caisse de sécurité sociale pour les régimes spéciaux, notamment l'enseignement, la fonction publique, l'armée, la police. Mais la caisse, en tout cas, n'est pas encore mise en place. Nous avons eu des assurances que ça pourra commencer l'année prochaine. Et c'est comme dans le système de sécurité sociale belge, ceux qui travaillent aujourd'hui payent la retraite pour ceux qui ont travaillé hier. Mais chez nous, malheureusement, et ça n'a jamais commencé. Donc, des enseignants qui ont vieilli et les rendements, en tout cas, on doit s'en rendre compte, hein, ce sont les enfants qui payent. Oh, les enfants que nous formons aujourd'hui constituent l'espoir du Congo de demain. Et la formation qui est, n'est-ce pas, assurée aux enseignants du primaire, même assez du secondaire. Moi, je pense qu'il y a quand même, il faut adapter cela au contexte, avec les avancées technologiques, avec les avancées scientifiques. L'enseignant, ne devient pas enseignant qui veut. Parce que l'enseignant, c'est celui qui doit avoir appris à faire la classe. Est-ce que les enseignants ceux qui font des humanités pédagogiques, ils font suffisamment la classe? Ils font suffisamment des pratiques? Ceux qui sont au secondaire, est-ce qu'ils les font aussi? C'est vraiment un problème. Et même dans la formation des formateurs, parce que moi, je suis dans le cadre de cette formation en tant que chercheur, et combien, n'est-ce pas, sont motivés et pour embrasser la carrière enseignante. Nous devons nous poser toutes ces questions-là. Et en termes de contenu, c'est vrai qu'il y a des efforts qui sont fournis et des manières qui sont produits actuellement avec l'appui des chercheurs congolais, des enseignants et congolais, parce que à l'époque, c'était des occidentaux et qui ont véhiculé beaucoup de stéréotypes. Mais maintenant, ces efforts doivent être étendus à toutes les disciplines. Donc, les contenus doivent être adaptés, même les filières de formation, que ça, au niveau du secondaire. Je vais me poser la question de savoir combien d'écoles de pêcherie on trouve dans la ville de Manaka. Il y a le fleuve là-bas. Combien d'écoles de foresterie? Donc, dans la vision, le type d'hommes à former, il faut qu'on sache pour telle période, il faut former autant d'ingénieurs en agroforesterie, en pêcherie, autant de pédagogues, autant de chimistes, tout ça. Donc, c'est toutes ces questions. Il y a beaucoup à faire. Il faut quand même un débat sur l'école. Parce que l'école, c'est pour apprendre. C'est pas pour délivrer des diplômes. Et ce n'est pas, mais c'est pour développer des apprentissages en termes de savoir faire, de savoir faire faire, de savoir être. Donc, même, et on a parlé de l'enseignement privé. La gratuité, c'est au niveau du public. Mais les privés aussi, à boire et à manger. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'écoles privées. Parce que je suis dans des directions qui s'occupent des écoles privées. Il y a beaucoup plus d'écoles privées que d'écoles publiques. Quelle est la qualité de l'enseignement dispensé? C'est vrai qu'ils appuient les gouvernements.
Mais aujourd'hui, les parents préfèrent même envoyer leurs enfants dans les écoles privées.
Oui, mais il y a à boire et à manger. Il faut être peut-être spécialiste en éducation pour dire quoi par rapport à cette question. Mais il y a des bonnes écoles privées aussi. Mais ici, je voudrais paraphraser un de mes maîtres, le professeur Pierre Moukenyampoy, qui avait toujours dit, on ne crée pas l'école privée, en tout cas pour s'enrichir. L'école, c'est un service à rendre à la communauté. Il ne faut pas qu'une maison d'habitation soit transformée en une école privée, c'est-à-dire les chambres deviennent des salles de classe et les salons deviennent en quelque sorte un bureau. C'est vraiment un réel problème. Il ne faut pas qu'on puisse se marchandiser, si je peux utiliser cela, parce qu'il y a quand même...
Malheureusement, c'est ça la réalité aujourd'hui.
Oui, la marchandisation du service de l'éducation, dès la maternelle à l'enseignement supérieur universitaire. Et là, il faut interpeller les parents, les partenaires parents. Est-ce qu'ils jouent leur rôle? Parce qu'il y a des parents qui se retrouvent dans la motivation payée. Et l'enseignant, parfois, ne se retrouve pas. Ils ont leur jeton de présence quand ils ont des réunions. Ils ne peuvent pas combattre cette motivation. Nous sommes rendus incapables, en tant qu'organisation syndicale, pour mettre fin à cela, qu'il y ait une sorte de corruption canalisée à l'endroit du système éducatif. Les maîtres doivent être placés au centre. Ici, je pense qu'on a besoin des infrastructures scolaires, et on a besoin des matériels didactiques, mais c'est le maître qui doit être dans
le centre. De la remise en niveau,
oui,
aussi,
oui.
Des enseignants.
Tout à fait, il faut... Je parlais de la formation continue. Est-ce que les maîtres, les professeurs du secondaire, ils ont accès au TIC? C'est un problème. Il ne faut pas que l'enfant soit pris en avant. Se trouve dans un environnement où il y a tout cela, l'ordinateur, l'Internet, et le maître n'est pas suffisamment avancé. Et ça entrave la relation pédagogique. Ici, je parle en tant que spécialiste, pas en tant que syndicaliste. Mais comme nous sommes défenseurs des enseignants, qui sont des parents aussi, les associations des parents, que ce soit les réseaux d'enseignement conventionnés et non conventionnés, si je parle de l'ANAPECO, doivent défendre leurs pères parents, qui sont leurs syndiqués. Sinon, en tout cas... Et l'éducation va toujours en pâtir. La qualité pose problème, ça date d'il y a plusieurs années. Tout le monde doit s'impliquer. La communauté nationale, que ce soit tous ceux qui sont dans les élections, les députés qui sont porte-voix des enseignants, qui se retrouvent parmi leurs électeurs, il faut qu'ils s'impliquent et aussi le gouvernement. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette question
de la qualité. Merci M. Kimbuya, professeur Mafeli. Quels sont les défis que le gouvernement doit relever aujourd'hui pour améliorer le système éducatif congolais?
Les défis à relever, ce sont des défis d'abord matériels et financiers, et puis les défis humains. D'abord, comme vient de dire mon prédécesseur, le syndicaliste, c'est d'abord c'est le formateur. Il faut absolument s'occuper du formateur. Il faut mettre à sa disposition tous les moyens nécessaires qui lui permettent de pouvoir améliorer d'abord, s'améliorer d'abord lui-même, et puis la qualité de l'enseignement, et puis l'enseigner aussi. Alors, dans tout cela, ça demande de l'argent. Combien le pouvoir public de notre pays, combien ils mettent dans la recherche? Il faut le moyen. L'enseignement, c'est un gouffre. Il faut beaucoup d'argent. Vous voyez, donc, former l'enfant en bas âge, c'est-à-dire de 6 à 13 ans, ça demande beaucoup d'argent, en termes matériels, en termes financiers, en termes humains. Vous voyez, donc, il y a tout cela. Mais la principale personne concernée, c'est l'État d'abord, c'est le pouvoir public.
L'État qui doit mettre des moyens pour l'enseignement.
Absolument, absolument, absolument. Vous voyez, maintenant, aujourd'hui, on parle de l'évolution de la technologie et tout cela. Mais aujourd'hui, la technologie coûte cher. Alors, il faut acheter tout ce qui est moderne parce que la technologie d'hier, elle n'est plus valable aujourd'hui. Alors, nous devons nous adapter. Alors, de ce point de vue, il y a un prix à payer.
Merci, professeur Mafeli. Monsieur Moussia, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kisangani.
Moi, c'est Pepe Lisungi Botomoito. Je vous appelle depuis la province orientale à Kisangani. Est-ce que le pourcentage de ces rapports dans ces deux enseignements est de combien de pourcents? Car à Kisangani, on n'arrive même pas à 10% selon la réalité sur terrain. Je voudrais aussi savoir si la gratuité de l'enseignement primaire est une faveur du gouvernement aux parents ou c'est constitutionnel, car 8 ans après avoir écouté cette histoire, on continue toujours à parler de la gratuité progressive, alors que sur terrain, la situation prend une autre allure à chaque année scolaire. Avec ce genre de rapports, il faut attendre encore plus de 10 ans pour que l'enseignement en RDC puisse être comme l'enseignement de l'avant 1990.
Alors, vous allez vous résumer, il nous reste au moins de 4 minutes pour mettre fin à cette émission. Est-ce que la gratuité, c'est une faveur du gouvernement ou bien c'est constitutionnel?
La gratuité est une disposition constitutionnelle. La gratuité, comme l'a dit mon prédécesseur, c'est un problème de moyens. Et les moyens doivent être mobilisés par tout le monde. Vous ne pouvez pas aller au-delà de ce que vous produisez. Et puis, il y a des équilibres macroéconomiques qu'il faut respecter. Il n'y a pas que l'enseignement. Il y a également les autres fonctionnaires. Il faut investir dans les routes. Il y a donc tout.
Mais aujourd'hui, lorsqu'un parent va à l'école pour inscrire son enfant, qu'est-ce qu'il doit payer?
Le parent qui va inscrire son enfant à l'école, ce n'est pas... Il y a les frais directs qui ne doivent pas payer. Qu'il ne doit plus payer.
Lesquels?
Les frais d'assurance, les imprimés, les TENAFEP, etc.
Mais qu'est-ce qu'il doit payer?
Encore une fois, ce n'est pas le gouvernement central qui fixe les frais au niveau provincial, ce sont les gouvernements provinciaux qui fixent les minéraux. Tout ce que le niveau central fixe, c'est le minéral, c'est tout. Et le reste est fixé par le gouvernement provinciaux au cas par cas. Ça, c'est une chose. Je reviens sur la qualité. La qualité, c'est très important. Il faut que des efforts soient déployés pour qu'on puisse améliorer la qualité de l'enseignement. Il y a tout un problème, il y a tout un programme, il y a des réformes. Le gouvernement a mis en place une politique de formation continue.
Merci.
Avec utilisation des moyens technologiques appropriés pour essayer d'atteindre tous les enseignants où qu'ils soient.
Merci, c'est en place, Monsieur Moussia.
Mais en fait, il faut noter que l'impact sur la qualité, ce n'est pas en une année, ce n'est pas en 2 ans, ça prend du temps, c'est pas la
même chose.
Merci,
Monsieur Moussia. Okay, on l'a retenu. Jean-Pierre Kimbuya, votre conclusion.
Oui, les codes d'aujourd'hui préfigurent l'image du Congo de demain. Il faut que l'État mette suffisamment de moyens pour l'éducation. Il faut que l'éducation forme des gens capables pour demain. Et il ne faut pas que l'enseignant qui est la pièce maîtresse puisse subir, n'est-ce pas, puisse subir les injustices par rapport à tout l'argent mobilisé dans le système éducatif, de sorte que les gestionnaires profitent beaucoup derrière l'enseignant et les parents eux-mêmes aussi. Il faut que l'enseignant soit motivé, qu'il ait les morales hautes parce que c'est le modèle. Magister dixit, le maître. C'était le modèle d'inspiration pour les enfants. Donc toute la communauté nationale doit se mobiliser autour de cette question pour que ça marche, mais il faut qu'on passe à messer l'enseignant aussi.
Merci Jean-Pierre Kimbuya. Professeur Mafeli, un mot en guise de conclusion.
Pour moi, je vais dire qu'il faut absolument améliorer la qualité de l'enseignement et pousser plus loin la gratuité, hein, jusqu'à atteindre la classe terminale, hein, la sixième année primaire.
Merci, professeur.
Et que ce ne soit pas une ségrégation, il faut que toutes les écoles primaires de la République, publiques, surtout les écoles publiques.
Merci, professeur. C'est la fin de cette émission. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.